mini-série intitulée « La course de la vie ». Alors quand j'ai choisi, par la grâce de Dieu, cet été de faire cet exposé, je n'ai pas fait dans mon esprit la relation avec les Jeux Olympiques, je n'ai pas choisi le texte par rapport aux Jeux Olympiques, mais c'est bien tombé. Bon, ce n'est pas que je ne sais pas que les Jeux Olympiques devaient avoir lieu, n'est-ce pas? Mais je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles et à lire avec moi les trois premiers versets de l'Épître aux Hébreux, auteur inconnu, mais inspiré par Dieu. Le texte nous invite ce matin à regarder en Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a quatre verbes ici dont on veut souligner l'importance. Tout d'abord, le verbe « rejeter ». Dans l'original, c'est un participe présent, « rejetant tout fardeau »,« courons », ça c'est un impératif. « Ayant les regards sur Jésus », encore un participe, « ayant le regard sur Jésus ». Et puis le quatrième verbe, « considérer », et ça c'est un impératif. En fait, Hébreux chapitre 12, vous allez me dire, c'est tellement évident, fait suite à Hébreux chapitre 11, qui sont la liste, n'est-ce pas, des héros de la foi. Alors Charles Sturt disait que pour être un héros, il faut d'abord être un zéro, parce que c'est dans la mesure où on laisse vivre Christ en nous qu'on peut effectivement être un héros de la foi. La Bible dit en Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, ce n'est pas une définition de la foi, mais plutôt une description de la nature de la foi. Et on a toute une liste à partir de, n'est-ce pas, Abel, on a toute une liste des héros de l'Ancien Testament qui ont marché sur cette terre par la foi. Et puis, le chapitre se termine avec une liste de gens qui sont morts martyrs, n'est-ce pas, des témoins qui sont allés à mourir à cause de leur foi pour le Seigneur, pour le Seigneur. Alors, devant ces modèles, ces héros de la foi, cette liste à laquelle nous pouvons ajouter nos propres héros, n'est-ce pas, dans nos lectures, au travers de l'histoire de l'Église, il y a ceux et celles qui se sont levés pour le Seigneur et qui ont vécu pour le Seigneur, qui sont parfois même morts pour le Seigneur et dont on peut lire les biographies et qui parlent encore aujourd'hui à cause de leur vie, n'est-ce pas? Ces héros de l'Ancien Testament, ces héros du Nouveau Testament, ces héros de l'Église, de l'histoire de l'Église, et ces héros d'aujourd'hui, on peut inclure évidemment ces frères et sœurs bien-aimés, persécutés dans des pays difficiles, qui sont des modèles pour nous. Mais à toute cette liste, il manquait le modèle parfait, qui est Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, maintenant, veut qu'on se concentre sur le modèle parfait à suivre. On peut avoir bien des modèles, mais celui qui est unique, parce qu'il est le Fils de Dieu, et par sa vie, qui nous a montré une démonstration, et a fait une démonstration de foi exceptionnelle, c'est Jésus qui est le modèle parfait. Et ce matin, je vous invite à vous tourner vers Jésus. Alors c'est une bonne chose, n'est-ce pas, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Les quatre verbes ici, « rejeter », courir, regarder, considérer, sont un ensemble, n'est-ce pas, indissociable. Et l'apôtre Paul a souvent mentionné la vie chrétienne tout d'abord comme un combat. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ et de revêtir toutes les armes de Dieu. On voit que la vie chrétienne est souvent comparée à une marche, aussi à un combat et même à la boxe. Paul disait « je frappe non pas comme battant l'air ». Donc on est en plein Olympiade, n'est-ce pas, avec toute la discipline que cela demande pour un athlète. Et puis ici, l'auteur aux Hébreux compare la vie chrétienne à une course que d'ailleurs Paul faisait en 1 Corinthiens 9. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. En fait, ici, nous avons une description de notre course. Et j'ai marqué ici comme titre du message la course de notre vie. S'il y a bien une course qu'on ne doit pas rater, c'est celle qu'on doit accomplir pour le Seigneur Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus. Alors je crois que la question que le Seigneur nous pose ce matin est la suivante. Où sont nos regards? Où sont vos regards aujourd'hui? Sont-ils fixés, vos yeux, sur Jésus? Où sont vos yeux aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont fixés sur Jésus? Alors, c'est intéressant de comparer les traductions un petit peu. Ce qu'on dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ici, dans ma traduction, j'ai qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans la traduction de Parole vivante, c'est écrit, dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Et on verra un petit peu ce que ça signifie que d'être le chef et le consommateur de la foi. Le mot consommateur, on a plutôt tendance à l'utiliser dans notre société pour ce qu'on consomme, n'est-ce pas? Les produits qu'on achète, qu'on utilise et qu'on consomme, par pléonasme. Alors, ayant les regards fixés sur Jésus, le modèle parfait. Le verbe ici est au participe présent actif. Alors, je vous passe un peu les détails par rapport au grec, mais l'idée ici, c'est de regarder fixement. Savez-vous quoi? Qu'on peut être distrait dans nos vies par bien des choses qui nous empêchent de courir les yeux fixés sur Jésus. La preuve, l'auteur, dans les premiers versets, on l'a regardé, il nous invite en réponse à cette nuée de témoins, ces gens qui sont comme dans un stade en train de se lever pour nous encourager à poursuivre notre course de la foi. Il nous est écrit que pour courir, il faut rejeter tout fardeau, on a développé tout cela, et le péché qui nous enveloppe, littéralement qui nous encercle facilement, est de courir. Le mot courir ici a l'idée de courir de façon continuelle et de façon difficile, parce qu'il s'agit non pas d'une course, d'un sprint, mais d'un marathon. Je ne sais pas si vous avez regardé hier, je crois que c'était hier, je regardais brièvement l'arrivée des 50 km à pied. On avait un espoir de médaille d'or avec un coureur qui s'appelle Denis. Il est arrivé complètement épuisé. Il était même tombé durant la course. Il avait passé la ligne d'arrivée. Il a marché un petit peu. Il a continué à courir. Il se demandait s'il était arrivé sur la ligne d'arrivée, s'il avait passé la ligne d'arrivée, parce qu'épuisé. Oui, cette course est une course qui ressemble plutôt à un marathon, n'est-ce pas? Le mot carrière ici pourrait être traduit par une course, le mot course d'ailleurs, et c'est agon qui a donné le mot français agonie. Donc nous sommes dans une course qui n'est pas facile. Ça demande de l'endurance, de la persévérance, de la patience, et donc c'est quelque chose qui ne se fait pas comme Usain Bolt, n'est-ce pas, en quelques secondes, moins de 20 secondes, moins de 10 secondes, excusez, pour arriver aux 100 mètres et arriver avec déjà la gloire, n'est-ce pas, de quelques secondes. Non, c'est un marathon qui dure toute la vie. Ouais, oh là là, je ne veux pas vous décourager ce matin, hein, mais ce que dit la Bible. Mais celui qui le rend possible, c'est ça qui est merveilleux, c'est Jésus, l'Esprit Saint à nous, Jésus, qui nous rend capable de courir ce marathon. Alors, Jésus, hein, dans le grec, qui a donné le mot qui était traduit de l'Ancien Testament, Josué, l'Éternel et salut. Nous courons pour nous qui l'avons accepté parce que Jésus nous a sauvés. Il nous a fait entrer dans la vie éternelle et même si déjà notre cœur est dans le ciel, mais nous courons hein, de nos pieds physiques et spirituels sur cette terre. Mais vous savez, dans la course, il y a des dangers. Il y a des dangers, comme dans la plupart des sports, c'est extrêmement important de regarder au bon endroit. On pourrait perdre sa concentration, regarder à ses pieds, sa foulée, ou regarder à l'autre. Alors Usain Bolt, pour encore une fois le mentionner, il finit le 100 mètres, puis il regarde à droite à gauche, il est le premier, il fait ce geste, il dit « voilà, je suis encore premier ». Mais c'est rarissime, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui finit la course et qui peut un peu se déconcentrer. En tout cas, pendant la course, même les nageurs, on regarde un petit peu, mais pas trop longtemps, pour voir leur position. Mais très rapidement, parce qu'on pourrait, n'est-ce pas, en regardant trop ailleurs, se disqualifier et perdre la concentration. Mais dans la vie du chrétien, c'est la même chose. On peut regarder à soi-même, ou à son égoïsme, ou même au mécanisme de la vie chrétienne, essayer de rationaliser ou de vivre par ses propres forces la vie chrétienne, ou de mettre plus d'importance sur ce qu'on fait que sur la personne de Jésus, et ne plus courir en ayant les yeux fixés sur Jésus. On pourrait avoir nos yeux fixés sur l'expérience, les émotions, et on a vu qu'on pourrait courir en vain par le fait de l'attraction du mysticisme, le désir de faire des expériences, notamment basées sur des émotions. Il y a des croyances, ils n'ont pas d'expérience, et des certains sentiments, alors ils pensent qu'ils ne vivent pas par la foi. Bien sûr que Dieu peut nous donner le sentiment de sa présence, mais on ne doit pas chercher l'émotion par elle-même, l'expérience. On doit chercher Jésus, celui qui donne l'expérience. Ou alors, on pourrait regarder trop aux autres. Certainement, il faut écouter les autres, il faut être avec les autres, mais il ne faut pas dépendre des autres. On peut certainement écouter les autres pour des conseils et même de la critique, je dirais, mais on doit garder les yeux fixés sur le Seigneur. Sinon, on pourrait trébucher en regardant aux autres. Et puis, on pourrait aussi se focaliser sur le Saint-Esprit. Suis-je rempli du Saint-Esprit ? C'est vrai que la Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, la bénité, la maîtrise de soi. Mais des fois, en voulant tellement avoir le fruit de l'Esprit, qu'on oublie que c'est en fixant les yeux sur Jésus, qui lui nous remplit du Saint-Esprit, qu'on vit le fruit de l'Esprit. Jésus est le centre de toute réelle expérience spirituelle. Et lorsque nous déplaçons Jésus au centre de notre expérience spirituelle, nous dévions, nous trébuchons dans notre course et nous nous égarons dans une certaine mesure. Alors, c'est parce que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur bien-aimé que nous apprenons à nous attacher ou à nous détacher de certaines choses dans nos vies. Un commentateur a dit ceci, « Lorsque nous fixons les yeux sur le Seigneur, le Saint-Esprit a toute liberté de nous utiliser et de nous faire courir et gagner. » Je n'ai jamais vu un croyant rempli du Saint-Esprit qui n'était pas utile pour Dieu, qui n'était pas dans la cour du Seigneur. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vos yeux sont fixés sur le Seigneur, vous êtes en train de courir et vous êtes utile dans la carrière que Dieu lui-même vous a ouverte, dans laquelle il vous a placé, l'endroit où vous vivez, où vous travaillez, etc. Nos yeux doivent rester fixés sur le Seigneur, à l'exemple de quelques personnes que j'aimerais mentionner de la Bible. Un contre-exemple tout d'abord, des fois par contraste, on comprend mieux, vous avez peut-être saisi de qui je voulais parler, la femme de Lot. En Genèse, il est écrit « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel ». Elle n'a pas placé ses yeux au bon endroit. Nous pouvons placer les yeux sur Jésus ou nous pouvons placer les yeux sur le monde. Où sont nos yeux et nos regards fixés ce matin? Moïse, qu'est-ce que j'aime cet exemple? C'est un exemple qui a bouleversé ma vie, je dois le confesser. Une vocation est née à cause de cet exemple de Moïse. Il est écrit juste avant chapitre 12, si vous voulez le regarder avec moi, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi, et regardez bien, soulignons encore que notre course, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixé sur la rémunération, c'est-à-dire le salaire de ce qu'il allait obtenir par la foi plutôt que ce que le monde pouvait lui donner. Nous pouvons avoir les yeux fixés sur le monde et vouloir avoir ce que le monde a, ou désirer ce que le monde peut nous offrir, ou avoir les yeux fixés sur Jésus et recevoir de Jésus ce que lui veut nous donner. Un autre exemple que j'aime souligner ici pour ce texte, c'est que Pierre, qui a vu Jésus marcher sur les eaux, s'est lancé sur les eaux. Et tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, et non pas sur la tempête et les flots, et sur les eaux, il a marché sur les eaux. C'est une vie miraculeuse, la vie chrétienne. Mais quand il a commencé à regarder autour de lui, qu'est-ce qui est écrit ? Il s'est enfoncé, et Jésus lui a dit « Homme de peu de foi ». C'est incroyable cela. Je me souviens avoir lu la vie d'un missionnaire qui un jour a été défié par des hindous de marcher pieds nus sur des charbons ardents. Il dit « Nous, nous marchons sur des charbons ardents. Et toi, ton Dieu, peut-il faire ce miracle ?» Là, il était au pied du mur, pour ne pas dire au pied d'un lit de charbons ardents. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a prié, il s'est humilié, il a quitté les chaussures comme les autres, et il a marché sur les charbons ardents par la foi. Maintenant, je ne vous conseille pas de faire cela par présomption, parce que si vous n'avez pas la foi, vous seriez dangereusement brûlé. Mais il l'a fait, ce missionnaire, parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et Dieu lui a donné la grâce de le faire, parce qu'il a cru dans son cœur, n'est-ce pas ? N'agissons pas par nous-mêmes dans des cas comme cela. N'essayons pas de vivre des miracles que Dieu ne veut pas nous faire vivre. Mais si la foi nous pousse à vivre certains miracles, alors ne soyons pas incrédules, n'est-ce pas ? Et puis, j'aime beaucoup aussi un verset qui a marqué mon cœur. Philippiens, Paul, il dit l'exemple de Paul. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » C'est vrai que la façon dont on voit et la façon dont laquelle on pense, on réfléchit, il faut un renouvellement d'esprit, d'intelligence pour voir comme Jésus voit. Il est écrit donc de la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il évaluait sa vie et tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été sa gloire, même son éducation, en cause de l'excellence de la connaissance de Christ, dans la balance, il disait, mais Jésus, comparé à tout ce que je possédais avant ou ce que j'étais, Jésus, c'est l'excellence et le reste, c'est comme de la boue. Et littéralement, dans l'original, des ordures. C'est extraordinaire de penser qu'un jour, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il va le connaître, il va découvrir que Jésus est l'excellence de la connaissance. Il n'y a pas de plus grande satisfaction intellectuelle, je dirais même, de connaître Jésus. Parce que c'est lui qui satisfait pleinement le cœur. Et je termine avec un autre exemple d'Étienne, en Actes chapitre 7, n'est-ce pas, qui était persécuté, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. En fait, lorsque nous regardons au ciel, nous voyons Jésus et nous voyons sa gloire. Si vous voyez Jésus dans votre vie, alors vous voyez la gloire de Dieu. C'est extraordinaire cela. Et je comprends le psalmiste qui dit « Une heure dans ta présence vaut mieux que mille jours ailleurs. » Car d'être dans la présence de Dieu, c'est certainement le plus grand délice que nous pouvons avoir sur la terre et le plus grand bonheur, même s'il y a parfois un prix à payer. Mais comment c'est possible de voir Jésus ? Il faut d'abord que le voile soit ôté. Il faut d'abord que Dieu nous régénère afin que ce voile qui nous empêche de voir Jésus et sa gloire soit enlevé, ce voile que Satan a mis, que notre chair vit. Et une fois que ce voile est ôté, alors nous voyons la gloire de Jésus, nous voyons son salut, nous acceptons Jésus dans nos cœurs et nous marchons et les yeux fixés sur Jésus. Il n'empêche pas moins que dans la marche, nous avons besoin, dit Paul, d'avoir les yeux illuminés. C'est ça la vraie expérience spirituelle. C'est que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage et qu'il réserve aux saints. Le croyant spirituel est joyeux parce qu'il est dans sa course, il sait qu'il court vers l'éternité. Il court les yeux fixés sur Jésus, il a une espérance vivante, il ne vit plus pour cette terre, il vit pour le ciel et il glorifie son Dieu parce que ses yeux voient Jésus. Et parfois nous prions pour certains qui ont des difficultés dans la vie et nous prions pour que leur vie soit transformée, on devrait prier comme Paul, que leurs yeux soient illuminés afin qu'ils puissent voir l'espérance à laquelle ils devraient être attachés à cause de Jésus, de l'héritage. Vous pensez avoir un héritage dans la vie, vous avez eu un héritage dans la vie, mais ce n'est rien en comparaison avec l'héritage du ciel. Dieu nous a fait co-héritiers avec Christ. Vous plaignez aujourd'hui, mais vous marchez sur la terre, vous êtes en route pour le ciel, et vous allez hériter de tout le ciel. Les milliards d'étoiles, la gloire de Dieu, vous allez être co-héritiers avec Christ. Ça devrait nous réjouir. Même si la course est parfois difficile, et si l'épuisement, l'égarement, les blessures, les difficultés, les tristesses de la vie peuvent être là, les épreuves, nous avons les yeux fixés sur Jésus et notre espérance, elle est vivante. Parce qu'on s'accroche à Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Jésus est le seul espoir. J'aimerais vous montrer maintenant ce que dit la Bible au sujet de nos yeux. J'espère que je pourrai terminer mon message de ce matin. On a vu rejeter, courir, ayant les yeux, ayant les regards sur Jésus. Et on va regarder pourquoi on doit se fixer sur Jésus. Vous avez la liste ici, tout simplement. Vous avez le verset, tout simplement décrit. Et on va regarder ensemble que nous dit la Bible au sujet des yeux. Où doivent se tourner nos yeux? D'abord, ils doivent se tourner vers Dieu. Alors, je vais couper un petit peu la liste des versets, mais le premier verset que j'ai marqué, « Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. » C'est extraordinaire, cela. C'est vrai que parfois, quand nous baissons la tête, nous regardons aux choses de la terre, mais quand nous levons les yeux, alors nous regardons vers Dieu. Je ne sais pas si vous vous promenez des fois le soir, vous voyez la splendeur du firmament et ces étoiles qui brillent dans le ciel, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et vous voyez la grandeur de Dieu, et c'est notre Dieu qui a créé tout cela. Alors nous pouvons lever les yeux vers Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ésaïe dit ceci, « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. » Et un peu plus loin, il est écrit j'ai marqué une liste des raisons pour lesquelles on doit avoir les yeux fixés sur Dieu et sur Jésus. Je vous la donne. Tout d'abord, nos yeux doivent être fixés sur Jésus pour être délivrés. Il est écrit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Notre seule issue, notre seule délivrance par rapport à toutes les ruses du diable, ses attaques, ses traits enflammés, c'est Jésus. C'est lui qui peut nous faire sortir les pieds du filet. Satan nous tend des pièges, il tente un filet pour nous prendre. La seule issue, c'est Jésus. Aussi, pour trouver refuge, c'est vers toi, l'Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Nous sommes livrés à toutes sortes parfois de circonstances ou de choses qui nous dépassent. Et notre seul refuge, c'est Dieu. Et quand nous péchons, c'est encore le seul refuge, là où nous pouvons être pardonnés et purifiés. Même si l'ennemi nous attaque, nous avons ce refuge qui est Jésus. Pour avoir la joie du Seigneur, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas d'ombre. Vous vous souvenez, Moïse, quand il est descendu de la montagne, son visage était tellement resplendissant que Israël, le peuple, ne pouvait pas supporter cela. Il était obligé de mettre comme un voile, tellement la présence de Moïse avait rempli son visage et ses pores, n'est-ce pas, de toute la clarté, la gloire de Dieu lui-même. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà souligné ce verset dans vos Bibles, en Ésaïe 41, verset 10. Mais pour être fortifié par rapport à nos yeux qui regardent à bien des choses qui peuvent nous inquiéter, une façon d'éviter l'inquiétude, c'est de retourner, de regarder à nouveau à Jésus, de se détourner de soi-même et de regarder à Jésus. Aussi, nos yeux doivent être tournés vers la parole, non seulement vers l'Éternel, mais vers la parole. Je vous lis deux ou trois versets. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je choisis la voie de la vérité, je passe tes lois sous mes yeux. Je devance l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et Jacques nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En fait, notre vie devrait être examinée pour voir si nous courons, parce que nos yeux sont fixés sur Jésus, sur Dieu et sur sa parole. Combien de temps passons-nous dans la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est vraiment une lumière sur notre sentier? Est-ce que la parole de Dieu nous dirige? Aussi, je termine avec cet aspect des yeux. Dieu nous invite à ne pas placer n'importe quoi devant nos yeux. Il est écrit dans un psaume, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Quand nos yeux sont fixés sur Jésus, on voit les attributs de Dieu, comme certains ont prié ce matin, ont remercié le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa miséricorde. On devrait encore plus à louer le Seigneur, car ses attributs sont infinis, n'est-ce pas? Et on pourrait louer le Seigneur infiniment pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, le louer, l'adorer. Mais une chose qu'on doit placer sous ses yeux, c'est la grâce. Et la grâce, ça vient de la foi. La foi consiste à croire, à mettre sa confiance en Dieu et à vivre de la grâce. Il y a un psalmiste qui a dit ceci, c'est David, « Je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » À quoi ça vous fait penser cela? « Je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Nous pouvons, peut-être sans le savoir, alors que nous voulons courir pour le Seigneur, mettre devant nos yeux des choses qui déplaisent à Dieu. La Bible dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Qu'est-ce qu'on peut mettre de mauvais devant nos yeux? Certaines lectures, n'est-ce pas, qu'on peut lire, certaines images, ou des programmes de télévision basés sur l'esprit du monde. C'est rare que les émissions de télévision édifient le croyant, n'est-ce pas? Parce que c'est baigné dans l'esprit du monde, selon la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie, ou de voir certains films. Nous devons apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal et ne pas mettre devant nos yeux les choses où Jésus ne resterait pas avec nous. Il y a un roman qui a été écrit par une chrétienne aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?» Et là où nous nous trouvons, nous pouvons nous poser la question, est-ce que Jésus resterait pour voir ce que je vois? Est-ce que Jésus resterait pour entendre ce que j'entends? Est-ce que Jésus ferait ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que Jésus participerait à ce à quoi je suis en train de participer? Que ferait Jésus à ma place? C'est un bon leitmotiv, n'est-ce pas, dans nos vies? Qu'est-ce que je place devant mes yeux? Nous pourrons être distraits dans notre course. C'est très facile d'être distrait. Le coureur de course à pied de 50 km, le français, il a regardé un autre coureur, il a accroché son pied à un pied de barrière, vous savez, qu'on met le long, et il est tombé. Mais pour un coureur qui tombe, avec tout ce que ça représente pour se relever, remettre dans la course, et le fait d'être tombé, c'est terrible. Il y a une jeune coureuse aussi, je crois, kényane, qui a été accrochée au talon et qui est tombée, et qui n'a pas pu finir la course, alors que c'était une des favoris. Il faut peu pour trébucher, il faut peu pour tomber, tout dépend où nos yeux sont fixés. Alors nous allons regarder et terminer avec cela, le fait que la Bible nous enseigne à avoir les yeux fixés sur Jésus. Il est tout d'abord le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Le chef dans le sens de chef de file, le chef, le prince, le conducteur. On pourrait traduire cela en paraphrase, celui qui est à la tête de toutes choses et a ainsi les moyens d'être un exemple, un prédécesseur, un pionnier, l'auteur. Autrement dit, un modèle parfait qu'on peut suivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout d'un coup, de réaliser que notre vie compte pour le Seigneur, mais aussi pour les autres. La Bible dit dans le Nouveau Testament, « Nul ne vit pour lui-même ». Autrement dit, ce que je vis, même dans le secret de ma chambre, ce que je suis a une incidence sur les autres. Qu'on le veuille ou non, ce que je suis en train de dire, de penser, de faire, a une incidence sur les autres. Et on réalise que d'être modèle, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est exigeant. Parce que même notre esprit d'être modèle n'est jamais parfait. On ne peut jamais être un modèle parfait, mais Jésus est le modèle parfait sur lequel on peut s'appuyer. Il est le chef de file, il est le précurseur d'une voie de foi parfaite. Il est très rare dans l'Ancien Testament de voir la description d'homme de Dieu sans quelque part un reproche qu'il aurait fait. Daniel en est un par exemple. Dans le livre de Daniel, on n'a aucun reproche sur la vie de Daniel. Mais est-ce que nous ne bronchons pas tous de plusieurs manières, dit la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies des choses qui peuvent même être une occasion de chute pour les autres? Ayons les yeux fixés sur Jésus. Le modèle de la vraie foi, c'est Jésus. C'est de ne pas suivre les autres, j'allais dire comme des moutons de Panurge et ce monde, mais de suivre le courant dans lequel Dieu nous a lui-même placés. Nous n'avons pas besoin de suivre l'esprit du monde. Nous vivons à contre-courant parce que nous avons un chef qui a vécu à contre-courant, qui a payé le prix. Alors, j'ai fait une petite recherche pour le mot consommateur, si vous avez cela dans votre Bible, en traduction, le chef et le consommateur de la foi. Comment comprendre cela? Alors, j'ai pris le dictionnaire français. Consommateur, je vous le lis, personne qui achète des produits pour les consommer, les utiliser, les user. On a beaucoup cette définition en tête. Et consommer aussi, c'est user, mais c'est accomplir, achever. Et même dans le dictionnaire, on lit qu'en théologie, le mot consommateur signifie une personne qui consomme, qui accomplit, amène à la perfection. Et c'est dans ce sens que le mot grec est utilisé ici. Le mot consommateur signifie celui qui achève, qui perfectionne, quelqu'un qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur exemple de foi. Paul, parfois, dit dans les Épîtres qu'il est un modèle à suivre. Et Paul, quand il dit cela, je pense qu'il n'est pas présomptueux lorsqu'il dit « Suivez mon exemple », parce que lui-même est en train de suivre Jésus. Nous devons suivre des croyants qui suivent Jésus. Nous n'avons pas besoin de suivre des croyants ou qui se disent croyants ou sont des croyants qui ne marchent pas avec Jésus pour suivre Jésus. Nous devons suivre ceux qui suivent Jésus. Nous devons faire la part des choses et choisir ceux qui marchent avec Jésus. Nous devons suivre Jésus, le consommateur de la foi, ce qui signifie fidélité, grâce, preuve certaine, conviction, engagement. Le modèle de la foi, c'est Jésus. Je dis oui, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est normal qu'il ait eu la foi en Dieu le Père. Il est Dieu fait homme. C'est vrai cela. Mais il était parfaitement homme et parfaitement Dieu en même temps. Mais Jésus est le modèle parfait de la foi. Et on va voir en quoi il est le modèle parfait de la foi. Alors je vous lis en résumé ce que dit un commentateur, je crois que c'est précieux de l'entendre. En tant que chef, Jésus est celui qui marche à la tête, il est le pionnier, l'initiateur, le fondateur, dont l'exemple de foi est parfait. En tant qu'auteur de la foi, il est aussi celui qui suscite la foi. C'est vrai que Jésus dit que le don de la foi existe, mais c'est lui qui communique la foi. L'Esprit aussi nous donne la foi et Dieu nous demande à croire et à suivre celui qui a marché sur des traces d'obéissance, de consécration vers Dieu le Père, et qui nous a laissé ce modèle et cet exemple à suivre. Jésus n'a jamais failli, et heureusement, quelqu'un a dit dans sa prière, « Merci Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. » Heureusement que Jésus ne change pas. Et sur la terre, il était constamment en train de suivre la volonté de Dieu le Père. En tant que consommateur de la foi, il est celui dont la vie de la foi a été parfaite. En tant que celui qui achève ou perfectionne, il est celui qui conduit notre foi à son accomplissement, à sa maturité, à son plein épanouissement, à sa perfection. Je dis, mais ça c'est l'œuvre de Jésus en moi. Oui, qu'est-ce qu'il fait pour utiliser ma foi, pour augmenter ma foi? Mais il utilise toutes sortes de choses quotidiennes dans la vie. Des grandes épreuves, des petites épreuves, des grandes bénédictions, des petites bénédictions. Des grands défis, des petits défis, il y a toujours place à la foi dans la vie du croyant. Vous vous levez le matin, mais c'est une nouvelle journée qui va demander la foi. On ne peut pas dire maintenant c'est les vacances, je n'ai plus besoin d'avoir la foi, je prends des vacances, Seigneur, je m'en vais en vacances. Mais si vous avez parti en vacances sans le Seigneur, vous êtes terriblement en danger, n'est-ce pas? Heureusement que Jésus ne prend jamais de vacances pour nous. Parce qu'on peut toujours être avec lui, même en vacances. Et heureusement qu'on trouve en lui le repos nécessaire, même en vacances, parce qu'il est présent. Jésus ne nous abandonne pas. Partout, notre foi est exercée. J'aimerais vous lire Hébreux chapitre 4 et verset 15, si vous me permettez. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il est écrit... Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Qu'est-ce qui nous délivre de la tentation, de l'épreuve? Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés de la force, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Mais quel est le moyen d'en sortir? C'est la foi. Nous succombons à la tentation lorsque nous succombons dans le fait que Satan nous tente, ou notre chair, et que nous gardons, et que nous oublions de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Mais Jésus lui-même a été éprouvé. Il comprend lorsqu'on est tenté, éprouvé, il comprend notre expérience, et si nous nous réfugions en lui, alors nous avons la délivrance. Jésus, en Matthieu 4, a été tenté par le diable sans se détourner de la dépendance avec Dieu le Père. La ruse du diable en Matthieu 4, dans la tentation de Jésus au désert, c'était d'enlever la dépendance de Jésus envers Dieu le Père. Et Satan voulait prendre la place dans le cœur de Jésus comme celui qui allait le diriger. Si tu es réellement le Fils de Dieu, etc. Il a voulu créer le doute et prendre la place de Dieu. Et c'est exactement ce que Satan fait encore de nos jours dans la vie du croyant. Non seulement il prend la place de Dieu dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent par toutes sortes de tentations de péché, et Satan est le maître et le malin et le prince de ce monde dans leur vie, mais aussi il s'initie dans la vie des croyants et par toutes sortes de ruses, il veut nous faire chuter, trébucher, afin que nous ne courons plus pour glorifier le Seigneur Jésus. Un chrétien qui est à terre, bien sûr, peut se relever, mais s'il reste longtemps à terre, parce que peut-être accablé ou par des toutes sortes de ruses du diable, s'il ne se relève pas par la foi, il peut rester longtemps à terre, jusqu'à ce que Dieu ait encore miséricorde envers lui. Mais reconnaissons que face à la tentation du diable, le seul refuge que nous avons, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu, comme Jésus a répondu au diable. Et Jésus nous a donné l'exemple. Dans l'épreuve, il n'a pas cédé. Face au diable, il n'a pas cédé. Il a été totalement soumis à Dieu le Père. En Jean 4, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu mon Père ». Et même en Jean 5, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Est-ce que nous prenons le temps de chercher la volonté de Dieu? C'est facile de vivre la vie chrétienne en étant dans une habitude qui nous semble spirituelle, mais sans peut-être être au cœur encore de Dieu. Laissons sonder nos cœurs. Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi si je suis sur la voie de l'éternité. Et au jardin de Gethsémané, Jésus a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a accompli parfaitement les œuvres de Dieu sur la terre. Il n'y a pas un seul moment où Jésus n'a pas vécu pour Dieu le Père. Jusqu'à ce qu'il ait tout est accompli. Tout accompli. Tout est accompli, a dit Jésus, sur la terre. Il a été élevé à la droite de Dieu le Père parce qu'il a plu exactement à Dieu dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit dans l'horloge de Dieu sur les bonnes œuvres préparées d'avance pour Dieu sur la terre. Jésus, le Fils, a montré pas après pas qu'il était exactement dans la volonté de Dieu le Père. Alors on n'est pas parfait. Les traces sont des traces de foi, d'endurance, de pardon, de miracles. Nous suivons ces traces, mais ces traces sont tellement grandes que parfois nos petits pieds trébuchent et tombent. On n'arrive pas à suivre ces traces. Mais Dieu nous relève et nous remet dans la course parce que Jésus a tout accompli. Pourquoi est-ce que Jésus est le modèle encore une fois? Parce qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Sa joie, et c'est dans la course, même si sa course a duré 3 ans, Jésus a souffert pour nous. Cette course à lui sur terre était difficile, pénible. Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas où reposer sa tête. Il dépendait de Dieu le Père pour être logé, pour être nourri, pour exercer son ministère, alors qu'il était Dieu. Lui-même prenait des heures pour prier. Il allait prier dans la montagne, dans des endroits reculés, pour être seul avec Dieu le Père, avant de choisir ses disciples, avant de faire tel ou tel miracle, avant de chasser les démons. Jésus passait du temps dans la prière. Il nous a montré ce chemin de la foi, qui est le chemin de la prière. Non seulement il a eu la joie sur terre de voir des gens guéris, réconfortés, amenés à la foi, délivrés de la puissance de Satan, mais il a couru, il a enduré le blasphème, la torture et la crucifixion parce qu'il avait en vue une chose merveilleuse. C'était la joie de l'exaltation, la joie d'être au sel avec Dieu le Père, la joie d'être assis à la droite de Dieu le Père. Et Jean 17 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » La gloire était l'objet de la joie de Jésus, mais la gloire est venue après la croix. Et reconnaissons, frères et sœurs, que bien souvent dans nos vies, nous voulons avoir la joie sans la croix. Nous voulons avoir l'abondance de la vie spirituelle, mais sans la croix. Nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes. Nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. C'est vrai que la vie sur terre du chrétien doit être joyeuse, parce que la Bible dit que le croyant rempli du Saint-Esprit est rempli du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie. Aussi, à cause du servir, Paul disait, du service pour Dieu, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et nous avons la joie du salut, nous avons la joie de l'espérance, nous avons la joie de la gloire à venir. C'est bon, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais pour recevoir la récompense, à l'exemple de Jésus qui, pour lui, sa récompense, c'était de retrouver la gloire de Dieu le Père et la joie de l'exaltation. La joie de pouvoir amener des milliers de gens au Seigneur, une fois ressuscité par l'envoi de son esprit. Il a enduré tout cela en pensant à nous, en vivant pour nous. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Une fois qu'on a une couronne, comme Paul dit, désormais la couronne de justice m'est réservée, c'est ce qui fait la joie du Seigneur dans le cœur du croyant, la joie de penser que son travail n'est pas vain, mais même une fois qu'il est récompensé dans le ciel, la joie du croyant, ça va être de déposer ses couronnes de récompense aux pieds du Seigneur, à l'exemple des 24 vieillards qui se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Le croyant doit marcher les yeux fixés sur le Seigneur. Il marche, il court, c'est vrai, mais il persévère jusqu'au bout. Parce qu'il est satisfait de la présence de Dieu dans sa vie, parce qu'il veut se sanctifier et obéir par amour envers Dieu le Père, parce qu'il va recevoir une couronne que personne ne pourra lui ravir et qu'il pourra déposer aux pieds du Seigneur. Et un jour, il aura la joie de participer à la gloire de Dieu le Père avec Jésus, son Sauveur bien-aimé. Jésus, il est écrit ici le modèle parfait parce qu'il a souffert la croix. Reconnaissons, excusez, je voudrais bien terminer, nous pensons souvent parce que nous avons quelques misères que nous souffrons, n'est-ce pas? Mais nous ne souffrons pas vraiment. Alors regardez l'exemple des frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en ce moment. Oui, eux souffrent vraiment à cause de la persécution. Mais nous nous plaignons bien souvent de tellement de petites choses dans notre vie, nous devrions avoir honte en pensant que c'est ça la croix de Jésus. Mais ce n'est pas la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est de souffrir à cause du témoignage qu'on rend à Jésus. La honte de la croix, être crucifié, c'était honteux, parce que c'était être considéré comme coupable, dénudé, crucifié, mis à nu devant tout le monde, et être vu comme coupable. Et c'est ce que Jésus endurait pour nous. Il est écrit ici qu'il a méprisé cette honte, ce déshonneur suprême. Quand les gens autour de lui lui ont dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix », il aurait pu descendre de cette croix, mais il a refusé parce qu'il a porté la honte de la croix par amour pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes? Paul disait « Mais croire en Christ, lui faire confiance et faire plus intime connaissance avec lui, or c'est là toute mon ambition, dit la parole vivante en Philippiens 3:10, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. » Ce n'est pas très populaire de mourir à soi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Vous aimez mourir? Personne n'aime mourir à soi-même, à son égoïsme, à son orgueil, sa propre volonté, ses propres désirs, ses propres ambitions. Bon, je dois terminer, mais j'aimerais vous dire et conclure avec cela, c'est que Jésus a fait tout cela pour être assis à la droite de Dieu le Père, pour nous sauver un jour. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait Jésus? Tout ce qu'il a enduré, lui qui était injurié, n'a pas rendu d'injure, nous dit un Pierre. Tout ce qu'a fait Jésus, c'est en pensant à nous. Il vivait pour nous, pour pour Dieu le Père, mais il vivait pour nous. Il a souffert à la croix pour être assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus est venu le sacrificateur, le prêtre par excellence, qui peut sauver parfaitement quiconque s'approche de lui parce qu'il a pris cette infâme croix. Il est devenu un sacrifice vivant pour devenir un sacrificateur parfait qui sauve parfaitement. Alors nos yeux sont-ils fixés sur Jésus, bien-aimé? Pour cela, nous devons rejeter tout fardeau, courir avec persévérance, garder les yeux fixés sur Jésus. Sur le chemin de la foi, nous avons besoin de fixer nos yeux sur Jésus, le modèle parfait. En vue de la joie qui lui était donnée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. En vue de la joie à venir, une récompense parfaite, souffert la croix, le sacrifice parfait, l'ignominie, l'endurance parfaite, s'est assis à la droite de Dieu, la gloire parfaite, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Peut-être trouvons-nous ce matin que la course est bien longue et bien difficile, bien fatigante, et nous aspirons parfois à être avec le Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, mourir c'est un gain, car c'est d'être avec Christ. Et c'est vrai que parfois nous trouvons que la course est difficile, périlleuse, mais la seule façon, malgré les difficultés, les obstacles, de continuer à courir, bien-aimé, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le modèle de la foi. Nous avons besoin d'entendre Jésus nous parler par ce qu'il est, ce qu'il a fait pour courir et encore courir. Parce que nous pourrions vouloir arrêter de courir, n'est-ce pas? Mais Jésus est le modèle parfait qui peut nous rendre capables jusqu'à notre mort, de continuer la course, d'être vivant pour Christ et de vivre pour Christ. Amen. Je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu l'heure, mais c'était difficile à couper ce message. Merci, bonne course, bon appétit aussi, bonne semaine. À mardi, pour ceux qui seront là, à dimanche prochain, le Seigneur vous bénisse et prions les uns pour les autres. Que cette nouvelle année, je ne sais pas vous, mais j'ai comme un fardeau pour cette rentrée en septembre, qu'on puisse courir ensemble à la gloire de Christ et voir